France Musique.
Bon week-end mon cher Nicolas Lafitte et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous. Fabrication maison ce matin à l'occasion du week-end à tout cœur qui se déroule aujourd'hui et demain à la maison de la radio donne de la voix. Celle de Margot Paresrena d'abord dans le portrait qui pilote le cœur des jeunes Simon Bolivar. Puis celle du cœur des jeunes Simon Bolivar que Vinciane Lomonier est allée rencontrer à Bondy. La musique française est au programme de la chronique de Marie Fauché, puis viendront les archives fantaisistes de Jean-Yves Pat, la lettre de l'auditeur et une question de cœur avec Sophie Janin. Vous nous suivez ce matin encore ?
France Musique.
Bonjour Margot Paresrena.
Bonjour Dominique Boutel.
Je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin parce que grâce à vous, d'abord, on va faire un beau voyage puisqu'on va partir sur des terres pleines d'énergie, pleines de soleil. Et puis avec vous, on va rencontrer aussi toute cette équipe de jeunes choristes du chœur Simon Bolivar que vous accompagnez en France et qui vont se produire ce week-end ici à la Maison de la Radio. Alors, je vous propose qu'on écoute votre premier choix qui va nous transporter tout de suite assez loin.
Thank you.
Margot Paresrena, c'est un vrai voyage que cette musique. Racontez-nous un petit peu ce que c'est.
C'est toute mon enfance. C'est le Venezuela, loin du Venezuela. Ici, en France même, ma mère nous mettait cette musique. Et moi, elle me faisait rêver. Elle m'apportait tout de suite du soleil. Elle m'apportait une énergie positive. Je la trouvais fascinante. Je la trouvais tellement différente à tout ce que j'écoutais autour de moi. Et très attrayante.
Alors parlons un peu de vous, Margot Paresrena. Donc vous avez fait vos études de chant en France.
En France, aux États-Unis. D'abord aux États-Unis, en Californie, parce que après mon enfance, on est allé vivre aux États-Unis. Et là, après une longue histoire, j'ai commencé à étudier le chant en Californie. Et après, éventuellement, c'est à Paris que j'ai continué mes études.
D'abord. On se souvient de vous sur les scènes parisiennes, sur les scènes françaises. Vous avez chanté beaucoup d'opéras.
Oui, beaucoup. Dans toutes les maisons. Oui.
Dans toutes les maisons d'opéra.
Et puis j'ai eu ce bonheur, ce privilège.
Et puis vous êtes retournée au Venezuela.
Et après toutes ces années, je suis rentrée au Venezuela parce que j'avais vraiment un besoin d'aider et de former le chant là-bas, dans mon pays, parce que je voyais qu'il y avait un mouvement énorme dont j'imagine nous parlerons, qui est le mouvement des orchestres du système. Mais je ne voyais pas que dans le chant, il y avait quelque chose de parallèle. Et ça m'inquiétait beaucoup. Je suis allée parler avec le maestro Abreu, José Antonio Abreu,
le fondateur de tout ce système. Oui.
Un homme absolument, un visionnaire, un homme extraordinaire. Il m'a tout de suite offert, il m'a dit, bon, très bien, viens et travaille avec nous. Mais alors là, j'ai commencé du début, Dominique, ça a été incroyable. J'ai commencé à travailler avec des enfants et je lui ai dit, et il m'a dit, bon, est-ce que tu crois que tu pourras le faire? Et je lui ai dit, maestro, je ne sais pas. Je lui ai dit, je sais chanter, je ne sais pas si je sais apprendre à chanter. Ça, c'est tout un autre domaine.
Alors Margot, on va écouter votre deuxième choix musical. Dites-nous un peu, parce que moi je ne connais pas du tout, Tonada de Luna Liena, je ne sais pas si je prononce très bien, de Simone Diaz.
Qu'est-ce que c'est? Très bien.
Merci. Alors, on écoute cette musique, puis vous nous direz ce que c'est.
Absolument.
Con el mío,
Margot Paris-Rena, c'est magnifique. Racontez-nous un petit peu, parce que vous me racontiez là pendant qu'on écoutait un petit peu ce qui se passait, mais il faut que les auditeurs en profitent.
Ça fait partie des chants qui m'ont toujours accompagnée et qui me hantaient, cette chanson particulièrement, parce que c'est une tonade, c'est le genre de chanson. Et c'est les chants que les hommes dans les champs chantent quand ils sont avec les vaches pour qu'elles donnent du lait. Et c'est des chants très doux, c'est des chants très... avec ces... La, la, la... Tous ces sons qui m'ont accompagné toute mon enfance.
Alors, on chante aux vaches.
Ah, on chante aux vaches. Voilà, et donc puis, elles donnent du très bon lait.
Donc, c'est une émission destinée aux vaches aussi, on va le dire.
Absolument.
Et donc, c'est chanté par Simone Dias. Vous me disiez que c'était un...
Oui, un chanteur, auteur, compositeur, qui probablement le plus connu du Venezuela. Il a énormément de musique qu'il a composée. Et beaucoup de chants sont arrangés, même pour chœur, pour des formations chorales, toutes sortes de chants.
Vous nous racontiez, Margot Paris-Rena, que vous aviez donc rencontré le maestro Abreu et que finalement vous lui aviez proposé de donner vos services, votre voix et votre énergie et votre sourire, car il faut le dire, vous souriez beaucoup à tous ces jeunes du système A.
Ça a été un privilège, ça a été vraiment une aventure parce que comme je vous racontais, il m'a dit est-ce que tu crois, Margot, que tu pourras faire ça? Et je lui ai dit, ben, je ne sais pas parce que je sais chanter, mais je ne sais pas si je sais apprendre aux autres à chanter, ça c'est tout un autre domaine. Et oui, ça a été une énorme aventure. Ça fait 18 ans que je le fais et c'est vraiment mon rêve abouti. C'est vraiment ce qu'on est venu rapporter ici en France avec cette petite tournée. Mmh. C'est vraiment...
Et alors, ce que je voulais savoir, Margot, c'est est-ce que le principe avec lequel vous enseignez à ces enfants correspond à celui de l'orchestre El Sistema, puisque c'est un système tout à fait particulier, oui. Hein, où on démarre avec des enfants d'abord qui viennent sans vraiment avoir de notion musicale, qui travaillent en groupe, toujours de façon très collective. On a beaucoup appris de cette expérience, nous, en Europe.
Et moi, j'ai appris d'eux, parce que je ne savais pas le faire. Mmh. D'ailleurs, on m'a dit, tu devrais essayer apprendre en groupe. Et je disais, mais non, c'est impossible, il faut travailler dans le studio avec mon élève et toute cette expérience. Et puis finalement, non, maintenant je travaille, il y a toujours 10-15 personnes dans le studio et c'est génial parce que pour eux, ça leur fait bondir des pas en avant parce qu'ils, d'abord, ils n'ont pas peur, ils chantent, ils cèdent et c'est ça ce qui est magnifique du système. Ils cèdent entre eux beaucoup, beaucoup.
Et alors, le répertoire qu'on a entendu, comme ce répertoire de Simone Dias, ça fait partie du répertoire que vous chantez ou vous orientez davantage le répertoire vers la musique classique?
Oui, le groupe avec lequel je travaille, c'est la Chorale Nationale Juvenile Simone Bolivar. C'est celle qui correspond parallèlement aux orchestres, la Simone Bolivar, par exemple, qui vient ici très souvent en France. Donc, c'est évidemment une musique classique. On se concentre sur le répertoire symphonico-choral, Mahler, Beethoven, Mozart, tous les grands classiques. Penderecki, ouf, tout ce que vous voulez.
Alors je vous propose qu'on écoute votre choix suivant. C'est une chanson.
Ah oui.
Une fugue de Bach, tu es entré dans ma vie comme une mélodie qui vous hante et vous suit dans vos rêves la nuit et dans vos insomnies. Comme une fugue de Bach, le début fut facile, je savais seulement que tu étais docile, que tu avais de beaux yeux. On était bien nous deux. Comme une fugue de Bach, tu as grandi, grandi, tu es devenu la mer et tout mon univers. Tu étais mon génie, tu étais ma symphonie. De Bach, tu m'emmenais très loin, là où naît le matin, là où meurt le chagrin, et moi je t'écoutais, et moi je te suivais. Mais comme une fugue de Bach, soudain tu as changé, tu fuyais, et puis tu revenais, je ne savais plus où. était ce qui était nous. Comme une fugue de bac, plus tu étais compliqué, plus tu étais embrouillé, plus tu me promenais, et plus je te croyais, et plus je t'adorais. Comme une fugue de bac, sur un dernier accord, nos lendemains sont morts, tu as quitté mon bord. Et ce fut le silence, le vide de l'absence. Mais comme une fugue de bac qui ne finira jamais, jamais je ne pourrai, jamais je ne voudrai oublier un seul jour du temps de notre amour. Car ma mémoire joue notre histoire.
Margot Paré-Srenas, cette chanson comme une fugue de Bach de Charles Dumont, c'est beaucoup d'émotions, oh, évidemment.
Énormément.
Oui. C'est un hommage.
C'est un hommage, oui, un hommage à mon mari que j'ai perdu l'année dernière et à la vie qu'on a. On s'est connus ici, à Paris.
Ah, jolie histoire.
Jolie histoire. Et ça fait aussi partie de ma vie, la France et mon pays. Je l'aime comme si c'était mon pays. Et la chanson française m'a accompagnée toute ma vie. Je trouve que c'est la meilleure des écoles. C'est ce qui suivait le leader. Les chansons françaises sont sublimes. Elles racontent une histoire. Chaque chanson est une histoire. Mmh. Chaque chanson est un univers.
Et vous trouvez que c'est quelque chose qui est formateur ?
Absolument.
Tout le monde dit que c'est difficile de chanter le français. Est-ce que c'est vrai ?
Pas pour moi. J'ai toujours adoré chanter le français. Je trouve que c'est une des langues les plus divines pour chanter.
Ah oui ?
Ah oui.
Oh bah écoutez.
Ah oui ?
Non. C'est agréable
en
de
plus,
l'entendre.
Non, mais si. C'est tout à fait
Est-ce
ça.
Est-ce que vous
ça.
Faites chanter un peu de français beaucoup, à vos jeunes du cœur?
Beaucoup. Oui. D'ailleurs, on a eu la chance de chanter Carmen avec Sir Simon Rattle, ni plus ni moins.
Un de vos grands rôles.
Ah oui, oui. Il était tellement content avec le français, il disait « Oh, je me sens comme si j'étais à Paris
». C'est vrai.
Oui.
Donc, vous parliez de répertoire. Donc là, on va écouter le choix que vous avez fait de la musique suivante. C'est sur ces fameuses Bacchanas Brasileiras.
Sublime.
Ça aussi, c'est un grand classique de l'Amérique du Sud, j'imagine.
Absolument. Et pour moi, un moment clave dans ma vie, parce que ça m'a ouvert énormément de portes.
C'était un moment clé.
Un moment clé, voilà, c'est ça, excusez-moi. Parce que c'était l'année où de Villa-Lobos beaucoup de cantatrices ont annulé ici leurs différents concerts. Donc, ils me téléphonaient tout le temps. Est-ce que tu peux remplacer tel un tel? Oui, volontiers. J'ai pu faire énormément de concerts magnifiques avec ces Bacchanas qui m'ont accompagné tellement d'années. Villa-Lobos, moi, malheureusement, j'ai pas eu cet honneur. Mais j'ai connu beaucoup de personnes qui ont travaillé directement avec lui, comme Fedora Aleman, qui est notre grande soprano du Venezuela. Et elle chantait une des versions qu'il préférait.
Mais là, vous avez choisi, vous, une version avec Victoria de Los Angeles.
Absolument.
Ça n'est pas mal non plus.
Oh, c'est génial.
Incroyable, hein, Margot Parasrena, cette fin.
Bocca chiusa, magnifique.
Bocca chiusa, la bouche fermée, magnifique. Alors, c'était quand même Victoria de Los Angeles et elle était accompagnée par l'orchestre de la RTF que dirigeait justement Hector Villa-Lobos.
Oui, c'est un enregistrement absolument
historique.
Historique.
On peut le dire.
Oui.
Donc, absolument. Vous l'avez chanté évidemment.
Oh, beaucoup. Et c'est une de mes œuvres préférées. C'est pour ça que. Merci de l'avoir mis dans le programme.
C'est un plaisir. Alors, évoquons peut-être pour terminer cette tournée de ce jeune cœur Bolivar. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyagez dans toute l'Europe, là,
On a commencé à Lisbonne. On a fait un concert à la fondation
Gulbenkian.
Gulbenkian, très difficile de prononcer. Après, on a chanté à la messe de Pâques, le dimanche de Pâques, avec tous les prêtres. Magnifique. C'était une expérience culturelle magnifique et spirituelle.
À Lourdes, je crois.
À Lourdes, oui. Oui. Après, on a fait plusieurs concerts à Poitiers, à Nantes. La cathédrale de Nantes, sublime
très,
endroit,
très belle,
lieu
oui.
magnifique. Maintenant, on est sur Paris et ils chantent cet après-midi à Versailles, avec la maîtrise de Versailles, dans la Chapelle Royale. Ce que je trouve une expérience unique. Je trouve que pour eux, c'est vraiment... Ils rentrent au Venezuela avec un bagage de mémoire, de souvenirs, d'expériences culturelles. Bref, c'est un privilège.
Parce que c'est ça aussi un petit peu le projet. C'est,
oui.
On
oui.
le sait, nous, c'est vous
éducation.
Et moi. Voilà, c'est un projet éducatif.
La musique, c'est l'excuse.
Oui, voilà, c'est ça.
Vrai.
Oui.
C'est vrai, en fait,
oui, oui.
en fait. Parce que c'est pour des enfants et qui viennent de familles...
très défavorisées.
Absolument, c'est ça le but, de les aider. Et quand on voit la société dans laquelle on vit en ce moment, qui est tellement compliquée, la violence qui entoure tous ces gamins, quand tu penses qu'ils ont cette option d'aller chanter, d'aller ouvrir l'âme, de se sentir bien pendant un moment, et on les voit, ils se sentent chez eux, ils sont avec leur famille. Maintenant, ils sont devenus une grande famille.
Mais vous, Margot, qui les suivez finalement depuis qu'ils sont tout petits,
oui,
depuis qu'ils sont entrés au cœur.
Depuis qu'ils ont à peu près 12 ans.
Vous les avez vus donc évoluer, ces enfants.
Absolument. Et mmh. ça a été mon grand cadeau de la vie, de pouvoir vivre cette expérience, de pouvoir être avec ce gamin, d'aider à former tant de jeunes et d'être une des personnes qui leur donne des choses magnifiques, les choses magnifiques qu'apporte la musique. Parce que finalement, la musique, c'est l'excuse pour faire ce voyage spirituel, pour faire ce voyage social, ce voyage culturel. C'est à travers la musique.
Comme toutes les formes d'art, en fait.
Comme toutes les formes. Et c'est grâce au maestro José Antonio Abreu, il faut vraiment le dire, parce que si ce n'était pas à cause de lui, on ne serait pas ici.
Alors, on se quitte avec un malheur. Hein, avec, c'est vrai que c'est un malheur que vous avez...
La quatrième symphonie, le quatrième mouvement de la quatrième symphonie de Gustave Mahler, de Gustavo Mahler. Ça y est, je l'ai dit en espagnol.
Voilà, c'est un cadeau pour notre réalisateur Philippe Petit qui aime beaucoup l'espagnol. C'est une pièce que vous avez chantée également.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est une autre œuvre que j'adore et qui m'a accompagnée beaucoup dans ma vie. Grâce à mon premier professeur de chant, qui l'a appris directement de l'assistant de Gustave Mahler. Thank you.
Alors, nous écoutions cet extrait de la quatrième symphonie de Gustavo Mahler, comme on dit au Venezuela, dans une version de la Tonhalle Orchestra de Zurich, dirigée par David Zinman, et la voix, c'est celle de Luba Orgonasova.
Bravo.
Merci, Margot. Donc, Margot, on vous retrouve d'ailleurs très vite, puisque vous êtes dans le reportage qu'a réalisé Vinciane Lemonnier à Bondy.
Ça fait
donc,
un plaisir.
Merci beaucoup de votre venue ce matin.
Merci, merci à vous.
Nous écoutions l'une des chansons populaires à trois voix de Daniel Le Sueur, qu'ont enregistré les jeunes chanteurs de la maîtrise de Radio France. Des chanteurs que vous pourrez donc retrouver tout ce week-end lors des ateliers ou des concerts qui sont proposés ici à Radio France. Concerts qui seront prochainement diffusés sur France Musique, bien sûr. Bonjour Vinciane Lemonnier.
Bonjour Dominique.
Les chanteurs du chœur national des jeunes Simon Bolivar, que nous évoquions à l'instant, se sont rendus à Bondy, en Seine-Saint-Denis, dans le collège Pierre Brossolette, pour rencontrer les collégiens et parmi eux, les chanteurs de la maîtrise de Radio France. Une rencontre que vous avez suivie, Vinciane.
Oui, et c'était donc mardi dernier. Alors, il faut imaginer les 120 chanteurs vénézuéliens débarqués dans l'auditorium du collège de Bondy.
On imagine.
Ça fait du monde, oui. Et avec eux, une énergie et un entrain absolument communicatif. L'idée était de rencontrer les élèves du collège,
de répondre à leurs questions et de chanter pour eux. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'osmose a opéré. Les collégiens, d'abord bruyants, se sont apaisés lorsque les chanteurs sont descendus parmi eux, les entourant de leur voix puissante. Puis cela a fini dans une ambiance carrément festive, avec chants rythmés et percussions. Les collégiens se sont levés pour danser, ont applaudi pour un bis et ne voulaient plus du tout quitter la salle. Alors la directrice musicale du chœur, Lourdes Sanchez, que vous allez entendre, était là, avec son survêtement aux couleurs du Venezuela et son sourire bienveillant. Et Margot Parres-Reyna, qui était avec vous tout à l'heure, Dominique, a assuré là-bas la traduction. Alors tandis que les jeunes chanteurs commençaient à s'échauffer la voix, les collégiens entraient en file indienne dans l'auditorium pour trouver leur place. Alors, Lourdes Sanchez, bonjour.
Hola, bonjour.
Hola.
Vous dirigez le chœur Simón Bolívar. Quel a été l'objet, en fait, de cette rencontre aujourd'hui à Bondy?
Mostrar lo que somos como sistema, sensibilizar a los niños con el estudio de la música.
C'est le but de cette rencontre a été de montrer ce que c'est que le système vraiment et montrer les différentes références musicales que les garçons, que nous montrons, que nous avons à montrer.
Est-ce que c'est aussi important d'aller voir des jeunes comme ça à Bondy dans des collèges, au sein même des collèges?
Oui, et pour nous, c'est vraiment montrer ce que nous sommes, le quotidien de ce que nous sommes au système. Nos nucleos sont dans les communautés et nous sommes habitués à partager avec les communautés.
Ici, dans la maîtrise de Radio France, il y a des élèves de Bondy qui chantent avec des élèves du 16e arrondissement de Paris. Donc, les milieux sociaux sont mélangés. C'est un peu différent que le chœur Simón Bolívar, mais il y a quand même une idée centrale qui se retrouve. En quoi c'est important ce type de projet?
Es quizá una de las primeras visiones que tenemos como más que visión como misión.
En fait, c'est une de nos plus importantes missions dans le système de ce mélange de social, parce que en fait, les jeunes, entre les jeunes, il n'y a aucune différence, et c'est ce que nous faisons dans le système A, de joindre tous les niveaux.
Lo interesante de la música es que permite servir de.
L'intéressant de la musique, c'est que elle peut être utilisée pour niveler, pour mettre des niveaux ou pour unir plutôt des niveaux, parce qu'il n'existe pas dans la musique en fait. Ce qui arrive souvent, c'est que peut-être les enfants d'un très élevé niveau social ont des carences que peut-être ceux qui viennent d'un autre niveau n'ont pas. Donc ils remplissent les uns les autres les besoins. Dans le système, on a une phrase très très connue du maestro Abreu avec laquelle il dit qu'à travers de la musique, on peut compenser les besoins matériels avec un besoin spirituel.
Après un premier chant d'introduction, vient le temps du dialogue. Les collégiens de Bondy posent des questions aux jeunes du chœur Simón Bolívar, en français ou en espagnol, s'il vous plaît.
Une question.
Quantos años tienen?
Les chanteurs.
Ils ont entre 18 et 26, 27.
Quantas personas sois?
Ah,
117.
117.
Une autre question?
Quando horas ça prend combien de temps pour faire un spectacle?
2 semaines, 1 mois, ça dépend du répertoire. Si c'est un opéra, ça peut prendre un petit peu plus de temps à cause du spectacle, à cause de la mise en scène. Mais sinon, si c'est de la musique, ça peut prendre 2 semaines.
Quel est le plat traditionnel du village?
On en a 2. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'arepa. Non, c'est une espèce de galette de blé de maïs. Et c'est vraiment exquis. C'est comme notre croissant. C'est vraiment une baguette. Voilà. Ça, c'est l'arepa ou le pavillon qui contient de la viande, des haricots noirs, du riz blanc et des grandes bananes qu'on appelle platanos frits. C'est très bon. Cantamos un poco.
J'ai 25 ans.
Je m'appelle Jonathan et j'ai 24 ans. Et je suis en ténor dans la chorale.
Comment est-ce que vous êtes entré dans le chœur Simone Bolivar?
Mon histoire, c'est très jolie parce que j'ai commencé seulement dans la chorale. Dans El Sistema, on doit commencer très petit, 6 ans, 7 ans. Et moi, j'ai commencé à 11 ans. Et je jouais de la flûte et je chantais toujours dans la chorale. Et quand j'ai, je pense que 16 ans, j'ai déménagé à Caracas pour étudier de la musique. J'ai commencé à chanter dans cette chorale, dans la chorale nationale Simón Bolívar.
Et est-ce que vous faisiez partie d'une famille de musiciens ou de chanteurs?
Non, pas du tout. En fait, mon père, il veut que je devienne un médecin. Mais c'est pas pour moi.
Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup la musique. Donc, quand j'étais 15 ans, j'ai fait l'audition à la chorale. Donc, j'ai fait l'audition et j'ai commencé à étudier musique, surtout le chant lyrique. Nous faisons des musiques sacrées, de l'opéra et musique vénézuélienne. Donc, maintenant, je suis tombé amoureux. Avec la musique, j'ai décidé à chanter pour le reste de ma vie, je crois.
L'ambiance dans la salle est festive, les collégiens se lèvent, applaudissent et dansent. Et à la sortie, on sent que la joie a touché tout le monde, y compris les maîtrisiens de Bondy.
Vous êtes tous de la maîtrise?
Oui.
De Bondy?
Oui.
Alors c'était comment ce concert?
Très bien.
Chacun son tour.
Moi premier. Très bien.
Qu'est-ce qui t'a plu?
Bah tout le cœur et comment elles ont chanté, surtout la fin.
Moi j'ai bien aimé quand aussi quand ils ont fait les danses, ils avaient le sourire.
Alors, en fait, au début, c'était bien calme, mais après, tout d'un coup, à la fin, ça a bougé bien et j'aimais bien.
Est-ce que vous connaissiez ce chœur, Simone
non.
Bolivar?
On ne connaissait pas ça.
Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez retenu de ce chœur?
Ils ont créé ça pour les jeunes défavorisés.
De quel pays ?
Du Venezuela.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris dans ce concert ?
Ils étaient tous joyeux.
Quand ils ont commencé à danser, bah, ça m'a surpris parce que j'ai cru qu'ils n'allaient pas bouger.
Vous, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude à la maîtrise, de danser ?
En fait, on fait des mises en scène, mais on ne bouge pas comme ça, on ne danse pas.
Et qu'est-ce que tu en as pensé, Anna ?
Bah, que c'était bien et que bah, j'aimerais bien écouter plusieurs concerts.
Alors ce soir, ils viennent faire un concert ici. Est-ce que vous allez, ça vous donne envie d'aller venir les écouter à nouveau ?
Oui, oui.
Vous allez faire quoi ?
Bah, je pense que je vais venir les écouter avec mes parents.
Ça fait 7 ans que vous dirigez ce chœur.
Oui, ça fait 10 ans, 7 ans qu'elle est avec le chœur, mais ça fait 35 ans que je suis avec le système dit Lourdes.
Et alors, qu'est-ce que vous retenez d'essentiel, en fait, lors de ces 7 années et ces nombreuses années au sein du système A ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, personnellement ?
Ça a convertido en mi vida.
C'est devenu ma vie en fait, parce que j'avais à peine 17 ans quand j'ai commencé. Et j'ai commencé au niveau de l'orchestre. Et puis après, la vie m'a emmenée vers le côté choral, dont je me retrouve maintenant.
Est-ce que vous faisiez partie d'une famille de musiciens, de chanteurs ? Comment est-ce que vous êtes entrée dans la musique ?
Non,
la musique à travers le folklore.
Empecé a estudiar música folclórica tradicional venezolana a los 8 ou 9 ans.
J'ai étudié la musique folklorique à peu près à 8 ans.
Et posteriormente, entré à une orchestra, ya cuando.
Je suis rentrée à l'orchestre après, un peu plus âgée, mais ce n'était pas ma mission d'être musicienne.
Y a los 18 años decidí que esa era mi misión de vida.
Mais à 18 ans, je me suis dit, bon, ça c'est ma mission de vie, je vais faire ça.
Alors là, lors du concert que vous avez donné aux jeunes collégiens de Bondy, je vous voyais, vous vous retourniez souvent pour voir si ça bougeait dans la salle. Et vous aviez l'air très heureuse de voir que tous ces collégiens se levaient de leur siège pour danser et frapper des mains avec vos chanteurs.
Sí, porque eso es
le but, c'est pas que nous chantions et que le message reste entre nous sur scène, mais que ça bouge dans la salle et que ça aille dans la salle, au public.
Venimos a dar un mensaje.
Nous sommes venus donner un message, ce que la musique raconte, ce que la musique bouge entre le public, entre chaque être humain.
Et le message, je pense, est passé, vu que certains collégiens ont décidé de revenir ce soir pour votre concert.
Lo bello de la música, a pesar.
Et c'est ça qui est génial dans la musique, parce que même s'ils ne comprenaient pas les paroles peut-être qu'on était en train de dire, la musique, le message est passé parfaitement.
Que se passent vos journées ? Est-ce que combien de temps vous chantez ? Où est-ce que vous chantez ? Où est-ce que vous répétez ?
Nous chantons dans la chorale 4 heures tous les jours.
4 heures officiellement, mais quand, par exemple, quand Gustavo Dudamel est en Venezuela, nous, on doit répéter tous les jours. Matin, après-midi, nuit, dimanche. Samedi, dimanche. Donc, c'est beaucoup de travail.
Beaucoup de répétitions, oui.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît au fond dans le fait de chanter ?
Je pense que le travail en équipe, parce que la musique que nous faisons, nous voulons être solistes. Mais quand nous sommes ensemble, nous devons travailler et nous écouter. Donc c'est un travail en équipe. C'est très spirituel, je pense, oui. La connexion que nous avons.
C'est unique. Je pense que seulement les personnes qui chantent dans un chorale peuvent expérimenter cette sensation.
Alors là, vous pouvez rester combien de temps dans ce chœur, Simone Bolivar? Est-ce qu'il y a un moment où vous devez partir?
Non, je pense que quand on vieillit, la chorale simplement va changer de chorale nationale des jeunes à chorale nationale Simone Bolivar et nous serons toujours dans la chorale.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on va chanter beaucoup de temps.
Quelle ambiance, n'est-ce pas, Dominique?
Ah oui, ça, on peut le dire.
Alors, on peut dire que le chœur Simone Bolivar a mis le feu. Et donc, il a ensuite donné un concert gratuit le soir à l'Auditorium de Bondy.
Et puis, ce chœur sera donc en concert ici à Radio France aujourd'hui et demain. Et puis, il sera à Notre-Dame de Paris demain dimanche matin, j'imagine, pour la messe. Merci, Vinciane.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors, Werther de Massenet, c'est ce soir au Théâtre des Champs-Élysées avec une magnifique distribution, Juan Diego Flores, Choité Donato, l'Orchestre National de France et la Maîtrise de Radio France, et puis l'Enfant prodigue de Debussy ainsi que l'Enfant et les Sortilèges de Ravel. Ce sera vendredi 15 avril à la Maison de la Radio avec une non moins magnifique distribution, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur de Radio France, Roberto Alagna et Karina Gauvin.
Alors, quand on pense à Ravel et à Debussy, on ne pense pas tout de suite à Massenet. Massenet.
Ravel.
Massenet. Debussy. Debussy et Ravel étaient tous les deux un peu embarrassés avec l'héritage de Massenet. Ils n'aient leur aîné respectivement que de 20 ans et 30 ans. Tous les deux considéraient sa musique un peu de haut. Elle était trop efficace, trop facile à leur goût. Et pourtant, tous deux ont bien dû reconnaître que Massenet avait un certain génie. Il avait le talent de savoir composer exactement ce qui allait plaire au public, et presque systématiquement et immédiatement. Et Massenet, en 1890, eh bien, il était l'un des musiciens les plus influents de la place parisienne.
La voix de Beverly Sills chantant « Adieu notre petite table », extrait de Manon de Massenet.
Et voilà ce que Ravel écrit à Manuel Rosenthal à propos de cette air « Adieu notre petite table ». Regardez l'enfant et les sortilèges, ce qu'on appelle maintenant l'air de l'enfant, toi le cœur de la rose. C'est un pastiche de l'air de Manon « Adieu notre petite table ». Entendez un hommage à Massenet, car c'est fait selon les mêmes procédés, simplement c'est mieux chez Massenet. C'est Ravel qui parle.
Thank you.
Françoise Augéas chantait le rôle de l'enfant dans L'enfant et les sortilèges de Ravel et Laurine Mazel dirigeait l'orchestre national de la RTF.
Voilà, et donc, avec le costume officiel, Maurice Ravel, en revanche, n'est pas très tendre avec Jules Massenet. Il écrivait vraiment tout ce qui lui passait par la tête, dit Ravel. Le résultat, c'est qu'il répétait toujours la même chose. Ce qu'il croyait être des trouvailles n'était toujours que des réminiscences. Alors Debussy, de son côté, a un peu la même vision de Massenet, mais en plus, il a un style bien plus ironique que Ravel. Alors il écrit... On sait combien cette musique est secouée de frissons, d'élan, d'étreintes qui voudraient s'éterniser. Les harmonies ressemblent à des bras, les mélodies à des nuques. On s'y penche sur le front des femmes pour savoir à tout prix ce qui se passe derrière. Les philosophes et les gens bien portants affirment qu'il ne s'y passe rien. Mais cela ne supprime pas absolument l'opinion contraire. L'exemple de Monsieur Massenet le prouve, au moins mélodiquement. En même temps, on se rend bien compte, en lisant Debussy, que la musique de Massenet était très populaire. Par exemple, il dit « A-t-on entendu dire des jeunes modistes qu'elle fredonnait la passion selon saint Matthieu ?» Je ne le crois pas, tandis que tout le monde sait qu'elle s'éveille le matin en chantant Manon ou Werther. Et puis, Debussy reconnaît que c'est une gloire charmante, je cite, « qu'en vit secrètement plus d'un de ces grands puristes qui n'ont, pour réchauffer leur cœur, que le respect un peu laborieux des cénacles. » On voit bien que ça n'est pas si simple pour Debussy. Il est à la fois très moqueur et en même temps, il n'a pas envie d'être associé au cénacle. Et on peut rappeler que Debussy a fini par obtenir le prix de Rome à la deuxième tentative et grâce à Massenet. En fait, on l'avait encouragé à composer quelque chose dans le style de Massenet, de s'inspirer de Massenet. Il avait 22 ans, ce fut son premier succès et c'était L'enfant prodigue.
Jessie Norman chantait cet extrait de L'Enfant prodigue de Claude Debussy avec l'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart que dirige Gary Bertini.
Massenet, Debussy, Ravel réunis cette semaine, ce soir Werther de Massenet par l'Orchestre National de France, la maîtrise de Radio France avec Joyce Di Donato et Juan Diego Flores. Et vendredi prochain, le 15 avril, Mico Franck dirigera L'Enfant prodigue de Debussy et L'Enfant et les sortilèges de Ravel avec notamment Roberto Alagna et Karina Gauvin, la maîtrise et le chœur de Radio France et bien sûr l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Et pour les familles, toute la troupe se retrouve le samedi suivant, le 16 à 11h. Pour une nouvelle version de L'Enfant et les sortilèges. Merci Marie Fauché.
À la semaine prochaine.
Agenda. Demain dimanche, vous avez de la chance, vous allez pouvoir assister à un nouvel enregistrement de 42e rue, l'émission de Laurent Vallière qui nous offre un concert privé avec la troupe de l'opéra de Katsu, l'opéra de Kurt Weill, interprété par la troupe d'opéra éclaté d'Olivier Desbordes. C'est au studio 105 à 11h. Lundi soir à 19h, c'est l'émission « À l'improviste » qui sera publique. Anne Montaron reçoit plusieurs musiciens improvisateurs, le oudiste Fadel Messaoudi, un trio saxophone, contrebasse et piano préparé, et enfin les élèves du collectif d'improvisation du CNSM qui interpréteront une pièce de Maurizio Kagel, « Ludwig van », surprise de l'oreille au studio 106 de la Maison de la Radio à 19h. Jeudi, c'est le violoniste Renaud Capuçon que recevra l'Orchestre National de France, ici à l'Auditorium. Il sera dirigé par James Gaffigan pour faire revivre un concerto peu joué, celui de Ferruccio Busoni, au programme également Fauré et Brahms. Enfin, vendredi 15 avril, une nouvelle fiction de France Culture invite le public à vivre un véritable spectacle radiophonique avec comédiens et bruteurs. Il s'agit d'adaptation par Pierre Assouline du roman de Georges Simenon, Le Train, sur une musique d'Éric Slabiak. Les voix seront celles des comédiens du français, Bruno Raphaël, Guillaume Gallienne, Françoise Gillard, Adeline Dermy et les élèves comédiens.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité. Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors vous êtes plein de fantaisie ce matin.
Ce matin je suis rempli de fantaisie, parce qu'il ne faut pas croire que la radio c'était toujours une institution, on se mettait à genoux sur une règle en fer devant le haut-parleur.
Mais d'où vous sortez ça?
Je ne sais pas, c'est peut-être l'image qu'on pourrait avoir en écoutant depuis le début de l'année des archives d'artistes extraordinaires, de choses invraisemblables, le truc unique et rarissime, l'italien qu'on n'entend jamais, etc. Non, il y avait aussi beaucoup de vie à la radio et beaucoup de choses très drôles, et j'en veux pour preuve, vous êtes bien réveillé, Dominique.
Oui, oui.
Et j'espère que nos éditeurs le sont tout autant, parce que j'en veux pour preuve cette gymnastique quotidienne.
Tension droite, mains aux épaules. Levez les bras verticalement le long des oreilles à 1. Revenez, mains aux épaules à 2. Partez. 1, 2, levez, baissez. 1, 2, levez, baissez. Levez la tête. 1, 2, 1, coude au corps. Tendez les bras, 1, 2, grandissez-vous, 1, 2, coude en arrière, 1, 2, 1, 2, 1, stop. Mains à la nuque, étendez les bras latéralement à 1, revenez mains à la nuque à 2, partez, 1, 2, ouvrez, fermez, 1, 2, ouvrez, fermez, tendez les bras, 1, 2, coude en arrière, 1, 2, levez le menton.
Ah, ouais, ah bah ça va mieux.
C'est bon là, ça y est.
Ah, je viens de le faire, je suis complètement détendu de l'épaule.
Ah bah ça tombe bien. Alors vous imaginez ça, en fait ça dure, il y avait à peu près 10 minutes de gymnastique quotidienne sur certaines radios.
Pourquoi on fait pas ça?
Mais je ne sais pas, pour faire les gammes
à partir
le matin,
de samedi prochain, on commence Fabrication Maison avec un petit peu de gymnastique.
Alors on va faire les flûtistes, le violoniste, le violoncelliste, les pianistes, etc. Bon.
Trêve de plaisanterie.
Trêve de plaisanterie.
Et trêve de sport.
Trêve de sport. Quoique, nous allons nous aborder maintenant le sport vocal. Et croyez-moi, c'est pas triste. Il y avait deux grands fantaisistes dans les années 30 qui s'appelaient Charpigny et Brancato. C'est un duo.
Déjà, avec des noms pareils.
Déjà, des noms comme ça. Alors, c'est Antoine Brancato et Jean Charpigny, dit Charpigny. Bon, alors, ce sont des fantaisistes terribles. Ils jouent sur la vague grande folle, très drôle. Beaucoup de répartie, beaucoup d'esprit. Et ils s'attaquent au grand répertoire. Alors, Jean Charpigny, dit Charpigny, a une voix de soprano absolument extraordinaire. Aujourd'hui, il serait recherché par les plus grandes maisons d'opéra. Quant à Antoine Brancato, c'est un fantaisiste un peu foutite et chocolat. Il y en a un qui envoie des piques et l'autre qui reçoit bonasse. D'ailleurs, l'un était maigre comme un clou et l'autre plutôt rondelet. Eh bien, vous allez voir, ils ont transformé Faust en petite chose assez rigolote. Et au passage, les plus habiles de nos amis auditeurs entendront qu'il y a des petits aménagements fort bien faits pour changer de tonalité.
Une bien jolie page de mon camarade Gounod.
Gounod.
Faust.
Faust.
Le grand duo du jardin.
Le duo du jardin.
In English, garden duo.
Garden duo.
Te fatigue pas, mon petit Brancato Pout.
Bon.
La mise en scène est de mon camarade Sacha Guitry.
Sacha Guitry. Allons-y, Chopin. C'est long, c'est long.
Il est pressé, ce Brancato, c'est pour tout la même chose.
Laisse-moi, laisse-moi. Pourquoi tu ris?
Je pense à une chose inouïe tout d'un coup, dis donc.
Quoi?
Si t'étais auvergnat, tu dirais laisse-moi, laisse-moi.
Et...
Bah quoi, alors on peut plus dire ce qu'on pense, non?
Contempler ton visage. Laisse-moi contempler ton visage.
Ça ne vous empêche pas, monsieur Faust.
Sous la pâle clarté, dont l'astre de la nuit, comme dans un nuage, caresse ta beauté.
Laisse un peu de grâce.
Qu'est-ce donc?
Pour un simple jeu, laissez un peu.
Que dit ta bouche à voix basse?
Il m'aime pas.
Oui, crois en cette fleur éclose sous tes bas, et qu'elle soit pour ton cœur l'oracle du ciel même. Il t'aime. Comprends-tu ce mot sublime et doux?
Je comprends.
Aimer, porter en nous une ardeur toujours nouvelle, nous enivrer sans fin d'une joie éternelle.
Ce sera long,
éternel.
Deux fois, on dit bis.
Bien.
Éternel.
Enlève ton pied, Moumouche.
Pourquoi?
Oh, c'est sur ma natte, voyons.
Oh, pardon,
moi, je suis tout embrouillé dans cette natte.
Pardon. Nuit d'amour, ciel radieux. Oh, douce flamme, le bonheur silencieux verse les cieux en nos deux âmes.
Je veux t'aimer et te chérir. Je t'adore, pour toi je veux mourir.
Marguerite.
Oh, partez,
Marguerite,
partez,
cruelle,
le chanteur
me séparer de toi, cruelle,
laissez-moi,
me séparer de toi. Dans quel état elle se met, cette
partez, maladie. Partez, oui, partez vite, partez, je tremble et là j'ai peur. Ne brisez pas le cœur de Marguerite, ne brisez pas, le cœur de Marguerite, partez, je tremble et là j'ai peur.
Mais non, mais ne pleure
si vous savez ce qui me prend après, vous savez ce malheureux. Ne brisez pas le cœur de Marguerite.
Tu veux que je te quitte?
Et l'enfant, je l'enverrai chez Potin peut-être alors, non?
Vois ma douleur, hélas, vois ma douleur. Marguerite, Marguerite, tu me brises le cœur.
Ah, d'autre.
Par pitié.
Si je vous suis chère.
Marguerite.
Par votre amour, par ses aveux.
Oh, ses
je
aveux.
Faire, si les hommes ont prié.
La voilà qui pleure.
Magnifique. Ah oui, ça, je dois dire, quel moment d'anthologie.
Et ça a un petit peu brisé le cœur des Marguerites, mais enfin, si beaucoup de Marguerites nous écoutent.
Jean Charpini, sopraniste, une voix incroyable.
Incroyable.
Antoine Brancato, baryton Martin, au piano un certain Cazay ou Cazay.
On ne sait pas très bien.
Un disque Columbia, c'est uniquement... ce sont les faces 1 et 2.
Oui, oui, c'est en deux faces enchaînées, ce qui nous permet d'avoir près de 6 minutes de musique tout de même.
De musique, pas toujours.
Comment ça, pas toujours?
Alors ensuite,
pour terminer, un autre fantaisiste qui a été pris de Rome.
Non.
Michel Maurice Lévy dit Beethoven, B-E-T-O-V-E, ne oui, confondez pas avec
pas.
Le petit viennois. Eh bien, ce Beethoven est un fantaisiste aussi, et lui, il aime à se moquer des conférences musicales qui fleurissaient dans son temps. Et on pense particulièrement à Reynald Hahn, qui donnait un grand nombre de conférences qui permettaient de redécouvrir le style gracieux, les grands maîtres du passé, etc., et d'expliquer aussi certaines pages de musique contemporaine. Eh bien, vu par Beethoven, le vrai, le seul, l'unique, méfiez-vous des imitations, voilà ce que ça donne.
Chanson Pompadour.
Chanson Pompadour, première chanson, 17e. 17e arrondissement, naturellement. Donnez-moi donc, marquise, votre main à baiser. J'aime vos chichis qui frisent et votre mousse sur le nez balai. Elle, ah, fille, dit la baron. Ne dites point de bêtises, sans sa petit fripon, je vais avoir ma crise, balai de la crise. Lui, marquise Mahoulette, douce bergeronnette, vos yeux me rendront fou, prêtez-moi donc 100 sous. Elle, ah, mon gentil museau, délicat chevalier, vous pouvez vous fouiller, vous n'aurez que la peau, balai de la peau. Lui, c'était pour badiner, et puis c'était pour voir, j'avais déjà tapé le marquis hier soir. Deuxième chanson Pompadour, chanson 18e, arrondissement. Ô marquise, ô tendre marquise, écoutez mon joli futio, en quel est cette terre qui grise et fait danser les vieux. Refrain, prout, 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 youf, youf, c'est la romance à la mode, et prout, 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 youf, youf, c'est le rondelle de plumeau. Petit ballet, entrée du roi. Deuxième couplette. Ô marquise, ô mon caramel, dansez-vous la pastourelle, venez sous les rayons coteaux, admirez la tour Eiffel à Citroën. Et prout, 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 youf, youf. Ah, vous avez mangé de l'ail, marquise. Et prout, 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 youf, youf. C'est le rond de la tour Eiffel.
Sortie du roi. Entrée de la reine. Troisième et dernier couplet, ce qui est dommage. Donnez-moi votre photo, marquise, pour la mettre sur mon cœur. Voici midi l'heure exquise, y a des harengs au beurre. Et prut, 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 tchouf, tchouf, les boutons sont à roulette. Et prut, 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 tchouf, tchouf, c'est le rondel. C'est ouais, 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 chameau, pas plus, 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 mauve, chame, plus, sortie de la reine, entrée des cuisiniers. Il n'y a plus personne dans le salon. Et voilà.
Et voilà. Et voilà. L'humour, le niveau d'humour a changé quand même. Hein.
On n'aurait plus les mêmes choses, dira-t-on.
On n'aurait plus les mêmes choses. Mais surtout, il y avait une espèce de paillardise, de
plaisir. Une gourmandise, et puis on se moquait ouvertement. Là, le pauvre Arnaldo Hahn, il devait à la fois se sentir très visé, et en même temps, je pense, être mort de rire.
Ouais. Alors donc, c'était ce fameux Beethoven, s'accompagnant au piano Pleyel, un disque d'Odéon Paris 1932. Et je vous demandais, Jean-Yves, quel est Esprit Rome, parce qu'on se demande quel est le prix de Rome qu'il a pu gagner.
Bien, composition et harmonie.
Ah oui.
Ah oui. Et il a été à la villa et tout, et ça a été un des grands compositeurs qui a choisi, sitôt qu'il a eu son prix, peut-être il a trouvé ça très fantasque d'avoir ce prix, et il a choisi d'en faire des fantaisies.
Merci Jean-Yves, vous serez plus sérieux la semaine prochaine, je crois.
Je crains que non.
À la semaine prochaine alors.
À la semaine
alors.
Prochaine.
Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous lirons le texte que nous a envoyé Bernard-Marie Lotté. C'était le jour où je devais passer l'examen pour l'obtention d'un CAP de photographe. Je venais de Levallois-Perret, où j'étais alors en apprentissage. J'avais pris le métro tôt le matin. Nous devions être une trentaine qui avions franchi le portail de l'Institut français de photographie, rue Paul-Valéry, dans le 16e arrondissement, là où se déroulaient les épreuves théoriques et pratiques. Nous attendions debout dans la cour, ne sachant pas trop à quelle sauce nous allions être cuisinés. Venant de la loge du concierge, sur ma gauche, les accents sublimes du 6e brandebourgeois se sont imposés délicieusement. Quelques-uns d'entre nous ont fait silence pour mieux entendre, au moins le pensais-je. J'étais littéralement transporté loin de là. Mon inquiétude avait momentanément disparu. Sans doute ce bienveillant gardien avait-il haussé le son de son appareil et mis sa paire de petites enceintes devant la loge pour nous, devinant le stress qui nous habitait. Aujourd'hui encore, je ne peux entendre ce concerto sans un frisson qui me ramène à mes 19 ans. Je ressentis un pincement quand mon nom fut prononcé par un petit haut-parleur, couinant, brisant là l'euphorie dont j'étais envahie. Et en même temps, une sorte d'apaisement dû à ce que je venais de vivre et qui me permit d'aborder presque sereinement les embûches de cette longue journée. Bien sûr, j'ai eu d'autres bonheurs liés à l'écoute de la musique dans ces années-là, liés surtout à l'achat d'un petit transistor de bonne qualité, un achat qui mit à mal mes maigres économies, mais qui me permettait de suivre la toute nouvelle chaîne de France Musique, née avec l'arrivée de la modulation de fréquence. Pour illustrer le souvenir musical de Bernard-Marie Lotté, nous avons écouté le dernier mouvement du 6e concerto brandebourgeois de Bach dans l'interprétation de Jordi Savall et de l'ensemble Hespérion 20. Cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, vous le savez. Alors allez-y, prenez la plume et racontez-nous l'un de vos grands moments avec la musique. Je me ferai une joie de vous lire à l'antenne. Question de cœur avec Sophie Janin. Bonjour Sophie Janin.
Bonjour Dominique.
Alors on ne nous a pas entendu depuis un petit moment parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup en ce moment.
En ce moment c'est intense mais on se régale en même temps.
C'est vrai, nous aussi en tant qu'auditeurs. Alors nous avons abordé de nombreuses questions techniques dans cette séquence questions-cœur le samedi matin dans Fabrication Maison. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu avec vous de répertoires. Et justement de ces répertoires pour cœur qui existent ou qui n'existent pas. Et en lien avec l'actualité, c'est-à-dire l'enfant et les sortilèges qui va être donné la semaine prochaine avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, j'avais envie qu'on parle un petit peu musique française et en particulier Ravel et Debussy. Alors, ces compositeurs vous sont-ils familiers? Sont-ils des compositeurs qui sont faciles à chanter?
Tout d'abord, il faut savoir que Ravel et Debussy sont des compositeurs dans le monde choral pour lesquels les gens ont énormément d'estime. Et ils ont une production réduite, il faut dire, oui. Surtout dans le répertoire a cappella. Ils ont tous les deux fait un opus de 3 chansons. Debussy se sert des poèmes de Charles d'Orléans. Ravel invente ses propres paroles. Les deux visitent un univers de musique ancienne française où on a des sonorités proches de Jeannequin, etc. Les deux font donc presque une démarche nationaliste dans un sens.
C'était l'époque, oui.
C'était l'époque et c'est absolument ravissant. C'est des joyaux absolus du répertoire. Dans L'Enfant et les Sortilèges, ce qu'on voit, c'est surtout cet univers de Ravel avec une riche fantaisie de l'imagination. Et tout comme on sait que Ravel était un formidable orchestrateur, on voit aussi qu'il se sert du cœur dans des strates, dans des enchaînements, dans des couleurs qui sont absolument, absolument sublimes. Par exemple, vous avez une scène dans L'Enfant et les Sortilèges où l'enfant sort dans le jardin et on a le cœur qui chante les rainettes, c'est-à-dire des petites grenouilles. Mmh. Ils accompagnent, entre autres, une valse relativement triste avec des sons qui doivent être chantés de façon nasale. Et c'est une texture absolument merveilleuse. C'est drôle et c'est beau.
Donc c'est assez réjouissant de diriger Ravel en tout cas.
C'est réjouissant, ça c'est tout à fait vrai. Et chez Debussy aussi, on a quand même des opus aussi comme les Nocturnes, la Demoiselle élue. Voilà, il y a des pièces comme ça de ces compositeurs où pour nous, en tout cas dans le monde choral, on est si reconnaissant qu'ils ont quand même produit quelques-uns dans leur répertoire parce que ce n'est pas des compositeurs de chœur très prononcés, mais on voit le savoir-faire dans l'art choral comme partout ailleurs dans leur production.
Et pour illustrer les propos de Sophie Janin, nous écoutions un extrait de L'Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel dans la version historique que dirigeait Laurine Mazel à la tête de l'orchestre de l'ORTF et des chœurs de Radio France. Ravel et L'Enfant et les Sortilèges ainsi que Debussy l'Enfant prodigue sont donc au programme du concert de musique française que dirigera Mikko Franck vendredi prochain à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec le chœur et la maîtrise ainsi que de merveilleux solistes. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de nous écrire à la page de Fabrication Maison. Vous aimez le cinéma? Eh bien, France Musique est partenaire du magnifique film de l'Iranien Hayat Najafi, Nolan's Song, qui raconte la détermination de sa sœur, la compositrice Sarah Najafi, à faire entendre les voix des femmes. Dépêchez-vous d'aller le voir en gagnant des places que vous offre France Musique. Là aussi, c'est facile. Il vous suffit de poster votre adresse sur le web de France Musique. C'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Cécile Gissot et de Frédéric Potry. À très vite.